Chers amis, si vous voulez bien reprendre place, nous allons essayer de respecter les horaires. Il est 11h32, donc on a vraiment peu de retard. Et si l'on veut effectivement pouvoir, au cours de cette table ronde, évoquer le chantier de l'imprimé en général, autant ne pas perdre de temps au début. Je voudrais d'abord féliciter nos deux organisateurs, Anaïs Fléchet et Jean-Claude Dion, pour l'organisation de ces deux journées des 20 ans du Centre d'Histoire Culturelle. Vous priez de m'excuser, mais j'étais retenu hier par d'autres obligations, sinon j'aurais été avec vous. Et oui, j'ai oublié de remercier Caroline, mais c'est parce que Caroline a été si gentille tout à l'heure, elle m'a troublé, c'est pour ça que tout d'un coup j'oublie de la remercier. Je vais vous faire la confidence. Elle m'a dit que je vous avais manqué hier. Alors, à mon âge, quand une jolie femme dit que on lui a manqué, ça touche profondément. Le groupe de travail sur la civilisation de l'imprimé, c'est comme ça que je l'ai appelé, s'est mis en place il y a maintenant un peu plus de 20 ans, donc dès la rentrée de septembre 1992. Moi-même, j'avais été affecté dans cette université à la rentrée de 1988. Donc, par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Pascal, je corrige, il y a une petite nuance, mais ton souvenir t'a troublé. C'est à cause de Pascal Horry, c'est pour ça que tu as, dans ton souvenir, il n'y avait pas de professeur d'histoire ici. Et si, depuis 1988, j'étais là, mais comme j'étais tout seul et que je ne pouvais pas faire 40 heures de cours par semaine, évidemment, Armel Lebras-Chopard en faisait une partie. Voilà, là je te prends en flagrant délit de déclaration d'amour à Pascal, ce qui après tout n'est pas très grave lorsqu'on célèbre 20 ans d'un centre. Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que civilisation de l'imprimé, il faut le prendre avec une interrogation. Est-ce qu'il a existé une civilisation de l'imprimé? C'est peut-être d'abord pour dire que si notre groupe de travail a au fond trois objets, le livre, l'édition et la lecture, ce groupe de travail a en permanence considérer que l'imprimé était beaucoup plus large. La chanson, le tract, l'affiche, les objets amusants, les prospectus, les cartes de visite, c'est tout cela qui doit être pris en compte lorsqu'on veut, avec un regard d'historien, parler véritablement du passé et en partie encore du présent. Je reviens d'Amérique du Sud, la literatura des cordels, les pliegos des sueltos sont encore extrêmement présents, par exemple, sur le marché de São Cristóvão à Rio de Janeiro. Donc, ces réalités doivent nous amener à toujours considérer qu'une bibliothèque, ce n'est pas simplement de beaux livres reliés. Ça, c'est une image qui appartient à une réalité, mais qui n'est qu'une réalité évidemment partielle. Ce groupe de travail, au départ, il avait choisi un objet beaucoup plus limité, le livre et l'édition au XIXe siècle. Et puis, il a débordé vers le XVIIIe en amont et vers le XXe en aval. Et puis, le XXe mourant, il est allé jusqu'au XXIe. La diachronie s'est élargie, mais la synchronie également, puisqu'on a élargi effectivement du livre et de l'édition vers la lecture et tous les problèmes que cela pose. Nous avons très vite considéré qu'il nous fallait établir un certain nombre de partenariats avec des universités étrangères. Et si François Valoton est à mes côtés, c'est que dès le départ, c'est avec l'université de Lausanne, à l'époque, le professeur d'histoire avec lequel nous collaborions, Pascal et moi, c'était Hans-Ulrich Jost. François était déjà dans l'équipe, mais il était un jeune assistant. Il devait faire sa thèse avec Jost et avec moi-même sur l'édition en Suisse romande. On en reparlera tout à l'heure. Nous avons également établi des partenariats avec l'université de Saarland, de Saarbrück, si vous voulez, ou de Saar, comme on dit en français, avec Hans-Jürgen Lusebrink. Je voudrais évoquer les partenariats avec l'Italie, l'Université degli Studi à Milano, avec Lodovica Braida. Des partenariats également avec le Canada, notamment avec les universités de Montréal. Les universités de Montréal, pas simplement l'UQAM, mais l'Université de Montréal, également McGill, je pense à Yvan Lamonde, l'Université du Québec, à l'Université Laval à Québec avec Denis Saint-Jacques, l'Université de Sherbrooke avec Jacques Michon et toute son équipe, José Vincent, Marie-Pierre Luneau, l'Université de Toronto avec le Centre d'Histoire du 19e siècle, je pense à Graham Falconer qui a pris aujourd'hui sa retraite, je pense également à Yannick Portebois et à d'autres. nos collègues britanniques. Je voudrais évoquer rapidement, parce qu'aujourd'hui, il faut évoquer les gens qui nous ont apporté quelque chose, qui nous ont permis d'avancer, qui nous ont permis de réaliser nos travaux. Nous n'étions pas omniscients, nous n'étions pas des pics de la Mirandole. Nous avions au départ, avec Pascal, une seule certitude, si nous voulions concurrencer les universités parisiennes, nous allions droit dans le mur, nous allions au désastre. Si nous voulions apporter un complément, alors on nous regarderait finalement comme des amis et nous pourrions travailler. Et c'est ainsi que, progressivement, nous avons tissé notre toile, une figure du 19e siècle, puisque l'araignée, dans l'œuvre de Fourier, occupe une place centrale. Université donc britannique, avec Ian Wilson, de la British Library, le toujours jeune Ian Wilson, il doit avoir 86 ou 87 ans aujourd'hui, mais il espère bien être en Chine pour le prochain congrès des sciences historiques, et j'espère bien lui offrir une coupe de champagne à cette occasion. D'autres collègues, d'autres universités, l'Université de Londres, bien sûr. Et puis, les Brésiliens, c'est tout le sens de la présence d'Eliana de Freitas Dutra, à qui nous avons réussi, il y a quelques années, à obtenir une bourse du ministère des Affaires étrangères. Elle a pu venir pendant 4 mois pendant 3 années. Ça lui a permis de réaliser une très belle étude sur la Revue des Deux Mondes et puis de nouer des partenariats privilégiés avec nous. Eliana Dutra nous vient de l'Université fédérale du Minas Gerais. Elle enseigne à Belo Horizonte, une ville extraordinaire qui est situé à côté des villes historiques, à côté de Ouro Preto, de Diamantino et de toutes ces villes évidemment qui font rêver les touristes, qui faisaient moins rêver les chercheurs d'or et qui au départ étaient des villes dans lesquelles on mourait aussi, mais elles ont réussi à au fond travailler et à montrer qu'elles avaient leur existence propre. Je pense à d'autres Brésiliens qui ne sont pas là aujourd'hui, mais j'étais avec eux il y a quelques jours. Il y a Lucia Granja qui nous vient de Rio de Janeiro, non, de Sao Paulo, pardon. Ouh là là, j'allais commettre une erreur, faire d'elle une carioca alors que c'est une paoliste. Et ça, il ne faut jamais commettre ce crime. Tu es paoliste, paoliste tu resteras. Donc, avec Lucia, Marisa Midori à l'université de Sao Paulo également, Gabriela Pellegrino, Nelson Chapochnik et puis bien d'autres qui ont travaillé avec nous, qui sont venus. Eliana, d'autres collègues nous ont envoyé des doctorants qui sont venus ici terminer leur thèse ou passer une partie de leur recherche à Paris. Les universités de Rio de Janeiro, avec Anibal Braganza, avec Celina, Tania Besson et d'autres que je n'ai pas le temps d'évoquer. D'autres partenariats avec l'Argentine. J'étais il y a 2 semaines à Buenos Aires et j'ai retrouvé Gustavo Sora, avec qui nous travaillons depuis des années. L'université également de Cordoba, la sienne, de Mendoza et quelques autres. Et puis, je voudrais évoquer le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient qui s'embrase une nouvelle fois. Et nous avons toujours tenu, avec Pascal et moi-même, j'ai toujours tenu à travailler et avec les universités d'Israël, et avec les universités du Liban, et avec les universités de Syrie. Et j'ai toujours expliqué à mes amis israéliens qu'ils devaient m'accepter comme je suis. Je travaille avec eux, avec le même plaisir qu'avec les Libanais ou avec les Syriens. Évidemment, en ce moment, je ne peux pas aller en Syrie, vous le savez bien. Et puis, je suis un peu inquiet parce que, de nouveau, les armes se font entendre. Mais c'est malheureusement un son que nous entendons depuis 1948 à de trop nombreuses occasions. Mais nous avons noué des partenariats avec notamment l'Institut français du Proche-Orient et puis avec les collègues Israël. Je pense évidemment à Uzi Eliada qui a été pendant 9 ans professeur associé ici. J'aurais pu évoquer également l'Australie et évoquer un autre professeur associé, Charles Sowerwine, que nous appelons plus familièrement Chips, puisque c'est ainsi que ses parents l'ont surnommé selon la mode américaine. Je voudrais évoquer aussi 3 absents. J'aurais aimé qu'ils soient là, mais vous savez bien, c'est toujours compliqué de réunir des universitaires. Je pense notamment à Robert Darnton, aujourd'hui d'abord professeur à l'université de Princeton, ancien élève de Harvard, qu'il a rallié pour devenir le directeur des bibliothèques. C'est un ami, nous l'avons fait docteur honoris causa de notre université il y a quelques années, et il en était immensément heureux. Roger Chartier m'avait dit « Je veux être avec vous », mais il a son cours au Collège de France le jeudi. Et quand même, on ne pouvait pas décemment lui demander de priver ses auditeurs du Collège de France de sa présence pour être aujourd'hui. Et puis Franck Mermier de l'Institut français du Proche-Orient qui aurait pu être là. Notre centre, nos équipes ont réalisé un certain nombre de colloques. Et je voudrais évoquer d'abord le colloque sur les almanachs en 1997, auquel avaient participé un certain nombre d'universitaires brésiliens venant de l'université de Campinas. Je pense notamment à Jerusa Pires Ferreira, que j'ai retrouvée il y a quelques jours en très bonne santé. J'en suis heureux parce qu'elle commence à vieillir et sa santé était un peu alarmante. Mais elle et Boris, son mari qui a 95 ans, toujours jeune, un extraordinaire traducteur du russe en brésilien, sont de grands intellectuels brésiliens, très respectés dans leur pays, et je les salue à cette occasion. Avec Jerusa, nous avions organisé un colloque sur les almanachs en Europe et dans les Amériques, ici à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et ce colloque était répété en quelque sorte un mois plus tard à l'université de Campinas, où nous avions tenu un deuxième colloque, et puis à San Paolo, au Parlement des Amériques, ce magnifique bâtiment construit par Oscar Niemeyer, nous avions organisé une exposition sur les almanachs, exposition à laquelle participait José Mindlin, un des plus grands collectionneurs sud-américains, aujourd'hui décédé, qui a eu la gentillesse de nous recevoir chez lui tout un après-midi et de nous montrer sa collection. Cette collection, il l'a léguée à l'université de San Paolo. Pour des raisons physiques, on a construit un bâtiment, elle n'est pas encore arrivée, mais le bâtiment est sorti de terre et la collection arrivera bientôt, la magnifique collection Brasiliana. Autre colloque que je voudrais évoquer rapidement, le colloque co-organisé par Eliana et par moi-même à Belo Horizonte, sur un thème très important, le rôle de l'imprimé dans la constitution des nations, à la fois en Europe et dans les Amériques, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Le livre existe dans une version en portugais brésilien, si on peut dire. Et c'est un énorme livre qui a proposé une première synthèse extrêmement importante sur ce thème de la construction des nations et de leur identité. D'autres colloques, je pense à ceux de Rio de Janeiro, les deux premiers séminaires organisés par Aníbal Bragança sur l'histoire du livre et de l'édition au Brésil. D'autres séminaires à São Paulo cette année, Jean-Claude était Graça et un certain nombre d'autres, je pense à Marie-Claire Bosque, étaient à l'université d'été de Campinas, université à laquelle nous avons participé, et puis à un colloque de São Paulo. Et puis à la rentrée prochaine, en septembre 2012, nous organiserons un nouveau colloque ici. Au-delà de ces colloques, je voudrais encore évoquer trois grands congrès internationaux. En effet, notre centre a été à l'origine même en 1997 de ce qui allait devenir un très grand colloque organisé à l'université de Sherbrooke, donc au Canada, au Québec, j'allais dire au Canada français, attention à ne fâcher personne, au Canada et au Québec. Ce colloque était la première rencontre d'histoire mondiale de l'édition. Nous avions une ambition un peu folle, non pas de traiter de la totalité des pays et de leur manière de pratiquer, au fond, le livre, la lecture et l'édition, mais de traiter des 5 continents. Claire Bruyère y était, hein, j'évoque ainsi un certain nombre de collègues. C'est la première rencontre où on a parlé du continent asiatique, du continent africain, hein, souvent l'oublié de nos travaux, et bien sûr des deux Amériques, de l'Europe et de l'Australie. 5 ans plus tard, à Sydney, à l'occasion d'un congrès international des sciences historiques, nous nous sommes de nouveau réunis, et puis 5 ans encore après, à Amsterdam, Eliana y était, François y était, et nous avons l'ambition de nous retrouver dans 5 ans en Chine. À l'occasion de ces rencontres, lors de grands congrès, nous continuons à mettre en cause, à questionner nos problématiques, à essayer d'innover, à abandonner au fond tout ce qui a vieilli, et puis d'essayer d'aller vers ce qui résiste au temps. Bref, à travers ces évocations, j'ai voulu montrer que ce groupe de travail, et je me suis peu nommé parce qu'au fond, ça n'a peu d'intérêt. J'appartiens à une génération à laquelle on a appris qu'au fond, le moi est haïssable. Bon, il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout cela. Mais en même temps, j'ai le sens que sans l'équipe avec laquelle nous avons travaillé en permanence, et je voudrais les citer, Patricia Sorel, Sylvie Ducat, Thomas Louet, Loïc Artiaga, Lampros Flitouris, Julien A, Jean-Charles Gesselot, et bien d'autres, Marie-Françoise Cachin, que je n'ai pas nommé. Et puis bien sûr, Diana Cooper-Richer, qui a été tout de même pendant 7 ans directrice adjointe du centre, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais qui a accompli un énorme travail. Et elle a été à l'origine, notamment, du groupe de recherche en relations internationales. Donc, tous ses collègues, tous ses amis ont permis à notre équipe de nouer des contacts, d'aller encore de l'avant. Et au risque d'être un peu long, je voudrais encore en citer, car il y a eu bien sûr les contacts internationaux, mais les contacts nationaux, sans lesquels le Centre d'Histoire Culturelle et Sociétés Contemporaines n'aurait pas pris toute l'importance qui a été la sienne. Les contacts noués avec Charles V, l'Institut d'études anglaises et américaines de Charles V de l'Université Paris 7. Claire Bruyère le représente aujourd'hui. Il y avait Simone Chambon, il y avait Marie-Françoise Cachin, il y avait Claire Parfait, partie depuis à l'Université Paris 13. Contact également et lien étroit avec l'Université Paris 8. Michel Rapoport n'est pas présent parmi nous, comme je sais qu'il est malade et qu'il vient chaque fois qu'il le peut. Je lui rends ici un grand hommage. Michel est un ami, Michel est quelqu'un d'une modestie extraordinaire et c'est un grand enseignant, un ami très fidèle de notre... Il est avec nous depuis les origines. L'Université Paris 10 Nanterre, bien sûr, puisque Pascal, moi et un certain nombre, nous venions de cette université qui nous a formés, dans laquelle nous avons été de jeunes maîtres de conférences, où nous avons beaucoup appris. Et puis, il faut bien le dire, si notre équipe a pu démarrer, c'est parce que nous avons emmené avec nous un certain nombre d'étudiants qui ont eu la gentillesse de nous suivre, de venir faire leur maîtrise et leur DEA avec nous. Dans cette université, à la rentrée de 1991, nous avons ouvert la première année d'histoire et en même temps la maîtrise d'histoire. Puis ensuite la deuxième année et le DEA. Et l'année suivante, nous avions l'ensemble des cinq années. Nous n'aurions pas pu le faire si des étudiants nanterrois n'avaient pas décidé qu'au fond, ils voulaient travailler avec cette équipe de jeunes. Bon, cette équipe de jeunes, c'est bien naturellement, ses cheveux ont blanchi, mais hein, Racine nous avait déjà expliqué ça, et beaucoup mieux que je ne peux le faire. Autre partenariat, Nanterre, un partenariat toujours vivant avec l'IUT Métier du Livre à Saint-Cloud. Autre partenariat très riche avec l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, qui d'abord était installé à Paris, puis s'est décentralisé en province, dans la banlieue de Caen, à l'abbaye d'Ardennes. Partenariat avec la Bibliothèque nationale, nous avons avec elle ouvert et continué les ateliers du livre. Nous avons beaucoup donné pour ces ateliers qui permettent de réunir tous ceux qui travaillent sur ces questions. Partenariat avec Sciences Po Paris, bien sûr, Jean-François Sirinelli, il faut de nouveau le citer et lui rendre hommage, a été dès le départ un compagnon de route bien décidé à travailler avec nous. Le dictionnaire d'histoire culturelle de la France contemporaine ne se comprendrait pas sans la mise en commun des ressources de deux laboratoires, le Centre d'histoire de Sciences Po et le Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines. Pendant cinq années, nous pouvons en témoigner, nous sommes une bonne dizaine ici, travailler ensemble en nous réunissant, puisque le comité scientifique, c'était les deux équipes. Jean-François Sirinelli, donc à Sciences Po, mais d'autres universités en province, l'université de Montpellier avec Alain Vaillant, Marie-Ève Terranti, l'université de Limoges avec Jacques Migosi, l'université, d'autres bibliothèques aussi, je pense aux bibliothèques de L'Heure Joyeuse à Paris, extraordinaire bibliothèque qui a eu l'audace de dire en 1924 que lire, ça donnait du bonheur, lire, ça procurait du plaisir. Alors qu'en France, on continuait à vivre avec cette hantise que Stendhal a magnifiquement illustrée en faisant apostropher Julien Sorel par son père, hein, un costaud, un dur à cuire, évidemment analphabète, et qui voyant son fils perché sur un arbre en train de lire, l'apostrophe en lui disant « chien de Lisard ». Eh bien oui, la France vivait avec cette idée que la lecture, c'était pour les riches, c'était pour les puissants, c'était pour les religieux, c'était pour les autres et jamais, jamais pour les pauvres, jamais pour les humbles, jamais pour les humiliés. Eh bien, avec leur joyeuse, on pouvait considérer qu'effectivement, la lecture donnait du plaisir. Après, il y a eu une autre bibliothèque avec qui nous avons travaillé, La Joie par les Livres. Et elle a inventé ce bonheur immense que je n'ai pas eu dans ma jeunesse, mais que j'ai essayé de donner à mes petits-enfants, l'heure du conte. Ce plaisir si rare qui fait que le temps s'arrête et que tout d'un coup, on pénètre eh bien, avec Alice et on passe de l'autre côté du miroir. Et tout d'un coup, le lapin n'est plus le lapin ordinaire que l'on avait avec soi. L'heure du conte, elle est irremplaçable. Elle est encore plus irremplaçable par les temps que nous vivons, tant de sinistroses, tant de tristesse, tant de crises. Mais en même temps, avec l'heure du conte, on peut montrer aux enfants que la volonté humaine est capable de déplacer les montagnes et de bouleverser tous les projets des politiques qui, eux, sont persuadés qu'on ne peut jamais jamais rien faire, qu'il faut se résigner, que la crise est plus forte, que l'économie ne peut être que ce qu'elle est. Non, tout ça est faux, évidemment. Et dans cette université, nous avons toujours travaillé en essayant de bouleverser, non pas d'apporter des recettes toutes faites, non pas de prétendre avoir les solutions à la crise, bien sûr, nous ne les avons pas, mais d'essayer de penser autrement, de penser ailleurs, de penser de manière décalée. Et je vais bientôt terminer et passer la parole à mes collègues, mais je voulais évoquer encore le salon du livre, de la presse et du livre et de la presse de jeunesse de Montreuil, également le groupe de travail de Ricochet à Charleville et Françoise H-Bissette, qui n'est pas là ce matin, mais qui a beaucoup travaillé avec nous. Au fond, 20 ans de travaux, cela permet effectivement d'essayer de réfléchir sur ces dizaines de livres que nous avons proposé à la lecture des autres. Je n'en citerai que quelques-uns. Le compte-rendu de colloque sur les almanachs, devenu à cause de l'éditeur la lecture du peuple. L'éditeur croyait que les almanachs allaient être trop restreints. Alors, on nous a donné un titre plus ambitieux, mais qui n'était pas le nôtre. Mais vous savez bien, un titre. Alexis de Tocqueville n'a jamais écrit « L'Ancien Régime et la Révolution ». C'est l'éditeur Michel Lévy qui lui a dit « Mais le titre que vous proposez, La Révolution, il est nul. C'est pas de ça dont vous parlez. » Et donc l'éditeur a dit « Désormais, ce sera l'Ancien Régime et la Révolution. » Un an plus tard, Tocqueville était persuadé que c'est lui, naturellement, qui avait inventé le titre. Ben, c'est comme ça. Il faut aussi aller de l'autre côté du miroir. Un colloque sur les feuilletons, sur l'origine du feuilleton, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en France, dans d'autres pays. Le colloque de Sherbrooke, les mutations du livre et de l'édition du XVIIIe siècle à nos jours. Et puis de grandes thèses également. De grandes thèses, je voudrais simplement en citer deux. Viera Reboledo-Duin, qui a soutenu sa thèse récemment sur la librairie, le monde des libraires, le monde vu du point de vue économique, elle a travaillé sur les faillites. Elle vient d'obtenir une mention au prix accordé par le Crédit Agricole. Elle avait comme compétiteur avec elle une collègue qui a obtenu, Claire Lemercier, qui a obtenu le premier prix avec son mémoire d'habilitation. C'est une collègue qui est déjà maître de conférence et qui va passer professeur. Donc avoir une mention spéciale du prix du Crédit Agricole pour une jeune chercheuse qui est simplement docteur, c'est évidemment une grande récompense. De même, Julien Hage, qui a obtenu un des prix cette année, hein, de la meilleure thèse. Et puis de multiples articles témoignent de cette activité. Alors, évidemment, il y a de multiples questions qui se posent. Et la première que je voudrais poser, c'est est-ce que l'on peut parler d'une civilisation de l'imprimé plutôt que d'une civilisation du journal, puisque un livre important a été publié cette année, auquel Jean-Claude et puis d'autres ont participé, Diana aussi je crois, hein, et puis d'autres collègues, intitulé « La civilisation du journal ». Dans mon dialogue avec mes amis, à la fois Dominique Khalifa et puis Alain Vaillant, j'ai toujours eu une certaine, Anne-Claude aussi a participé évidemment à la situation du journal, j'ai toujours une certaine réserve parce que j'hésite à dire qu'on pourrait qualifier le 19e siècle de civilisation du journal parce que ce serait imaginer que le journal, qui certes a revêtu une très grande importance, a pénétré partout. Mais on le sait bien, le monde du spectacle est également une caractéristique du 19e siècle. Et puis, il y a tout ce domaine de la chanson. Il y a tous ces autres imprimés que j'évoquais en introduction, la littérature du ruisseau, les imprimés du trottoir, tout ce qui se déverse et qui n'est pas très noble et qui ne pénètre pas forcément dans le journal ou qui n'est pas forcément pénétré par le journal. Lucien Febvre s'était posé la question quand il préparait le volume consacré dans l'Encyclopédie française aux choses imprimées. Et il l'avait intitulé, vous allez voir ses hésitations, « La civilisation écrite, le livre, les journaux, les bibliothèques ». C'était déjà un effort très important pour aller au-delà du monde cher aux intellectuels. Mais, vous le voyez, il n'y a pas de place pour la littérature du trottoir, il n'y a pas de place pour la littérature de colportage, il n'y a pas de place pour les chansons, il n'y a pas de place pour les tracts, pour les prospectus. Or, tout cela, toute cette chose, cette matière imprimée a joué un rôle considérable. Les tracts, je n'ai pas le temps d'en parler, mais j'aime bien surprendre mes étudiants en disant, évidemment, pour vous, le tract aujourd'hui, c'est quelque chose inventé par la gauche. Hein, c'est ou le Parti socialiste, ou le Parti communiste, ou les anarchistes qui balancent des tracts dans la rue. Et d'ailleurs, on a inventé le verbe tracter. Mais non, c'est les cathos qui ont inventé ça. Évidemment, ce sont les catholiques qui d'abord ont imprimé des tracts dès le 17e, 18e, 19e siècle. Et la gauche a repris, en quelque sorte, vous savez, si j'avais le temps, je pourrais vous développer un parallèle entre la Congrégation de la foi à Rome, des Propaganda Fide, et la Troisième Internationale qui invente l'agitprop. L'agitprop trouve sa matière dans le Vatican. Les curés ne le savent pas, le pape serait bien surpris et peut-être me condamnerait pour hérésie pour oser soutenir cela. Mais en même temps, c'est peut-être l'hommage de qui ? De la vertu au vice ou du vice à la vertu ? Chacun de vous choisira en fonction de son orientation. Alors, c'est tout ce monde que l'on essaye de parler. C'est pourquoi je voudrais poser la question par rapport à nos deux invités. À nos deux invités qui vivent l'un en Europe, en Suisse, donc à côté de nous et pratiquement dans les mêmes conditions qu'en France. L'autre en Amérique du Sud, au Brésil, où il reste 25% à peu près d'analphabète, notamment dans le Nordeste, où il reste des traditions de littérature orale. Alors je voudrais demander d'abord à Eliana ce qu'elle pense de ce concept ou de cette notion de civilisation de l'imprimé et si les équipes avec lesquelles elle travaille font un peu comme nous en essayant de déborder le monde simplement du livre, le monde des bibliothèques.
Bon, tout d'abord, merci pour l'invitation et je me réjouis aussi pour l'anniversaire de 20 ans de Sainte Histoire Culturelle. Bon, Jean-Yves, n'est pas facile à penser ça. Et surtout, en ce qui concerne le Brésil, je commence en disant quelque chose qui, un écrivain de Mozambique a dit qu'il y a un dicton à Mozambique que quand un ombrier meurt, une bibliothèque brûle et elle disparaît. C'est Miercouto qui a dit ça. Que c'est un dicton très répandu. Le Brésil n'est pas ça. Et le Brésil a la présence de l'oralité. Elle est encore forte au Brésil, elle est encore forte en Bolivie, elle est encore forte au Pérou. Mais ça, en fait, il faut penser que les livres, ils arrivent dans l'Amérique latine, ils arrivent avec les colonisateurs. Non, le livre, il va être, il arrive à l'Amérique latine et comme une marchandise. Donc, il est un an après que le livre Don Quichotte de la Manche a été publié en Espagne, un an après, il était déjà dans l'Amérique. Il avait déjà arrivé à Cusco, il avait déjà arrivé à Cuba. Donc, les livres, il a toujours été présent dans l'Amérique latine, dans l'empire colonial, soit portugais, soit hispanique.
Si tu permets, je te redonne tout de suite la parole. Tu soulignes un point capital. En effet, il n'y a jamais eu de retard des colonies d'Amérique latine par rapport aux métropoles. Développe un peu cette idée.
Non, les gens lisaient beaucoup partout dans l'Amérique hispanique. Ils lisaient beaucoup au Brésil, malgré la censure, malgré l'Inquisition. Les livres arrivaient par bateau, au milieu des marchandises. Il y avait des échanges avec des produits. Les livres étaient séparés en feuilles. Donc, ils ont utilisé beaucoup des artifices pour que les livres arrivaient et les gens lisaient. Ils lisaient les nouvelles, ils lisaient les romans, ils lisaient la philosophie, les livres de philosophie, les livres de religion. Les livres arrivaient partout en Amérique latine, dans toutes les formes possibles. Et en ce qui concerne le 19e, que tu as dit la question de la civilisation, si on peut dire que c'est la civilisation du livre, de la civilisation de l'imprimé, je vais ajouter quelque chose. Parce que, en fait, en ce qui concerne, par exemple, le Brésil, il faut penser à quelque chose qui, il y a les rapports, par exemple, des médiations de certains, dans certaines couches de la population et le monde de la culture écrite, est très. Il commence à être mieux étudier au Brésil. Et il y a des liaisons, par exemple, avec des pratiques orales, des socialisations et en même temps et de l'écriture et la circulation des manuscrits au Brésil. Il y a au Brésil toujours à exister des formes d'apprentissage qui ne sont pas scolaires. Toujours ça a existé au Brésil. La plupart de la population noire au Brésil, des métis, lisaient comme ça, pas forcément dans des pratiques qui étaient scolaires. En même temps, il y a des interférences, il y a eu, déjà au début du XXe, ça existe toujours encore, par exemple, au nord-est du Brésil, des interférences du cinéma, des interférences des afro-rôles.